j'avais envie de faire un petit défi assez original, qui était de traverser la Manche en optimiste. Ça avait été fait, je crois, une fois, mais il y a très très longtemps, entre Calais et l'Angleterre. Et en fait, voilà, on s'est dit, oh, tiens, on tente ce projet. Et on s'est dit ça avec ma famille, enfin, ils m'ont soutenue dans la construction du projet. Et en fait, ça a été génial. C'était une aventure qu'on a préparée sur une année. Et puis un jour, je suis partie avec mon optimiste de l'île de Wight jusqu'à Cherbourg. Et j'ai navigué pendant 15 heures sur l'optimiste. J'ai traversé les cargos, j'ai traversé des conditions où il y avait pas mal d'air. Enfin, c'était assez incroyable et en même temps magique parce que je suis partie à 3 heures du matin. Je suis arrivée le soir à 19 heures. C'était vraiment... J'ai vu la nuit, j'ai vu... le lever du soleil, tout ça, et je pense que ça a vraiment posé une graine dans l'envie de faire de la course large.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Violette d'Orange. Bonjour Violette.
Bonjour.
Violette, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Donc voilà, je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 19 ans et je suis une navigatrice.
Et alors ça commence comment la voile pour toi du coup?
J'ai commencé la voile à l'âge de 7 ans, donc j'ai fait le cursus à peu près... habituel, donc optimiste pendant 8 années. Et après, je suis passée au pôle espoir en 420, donc au pôle France Jeune, je veux dire. Et en fait, là, depuis 2 ans, j'ai un parcours tout à fait original puisque je suis partie sur la course au large à 18 ans. Et donc, j'ai fait la mini transat l'an dernier et cette année, je prépare la solitaire du Figaro.
Eh bien... Qu'est-ce qui t'a fait cette révélation finalement de la passion que tu peux avoir pour la voile? Comment ça commence cet intérêt?
En fait, au tout début, quand j'ai commencé la voile à 7 ans, j'aimais pas du tout ça. C'est vrai que pour moi, la voile, il faisait froid, c'était humide. Et quand j'étais petite, j'aimais pas ça. Quoi. Vraiment, je voulais faire du cheval ou de la danse, quelque chose de plus féminin. Et en fait, j'ai dû faire 2 années d'optimisme comme ça. Et puis au bout de 2-3 ans, j'ai dit, bon, j'en ai marre, je vais arrêter. Mes parents m'ont dit, tu finis l'année, on a pris pour ta licence pour toute l'année, donc tu termines. Et en fait, j'ai commencé à faire les premières courses en compétition. Et là, j'ai tout de suite accroché parce que ça commençait à marcher bien. Et je me suis attachée au jeu de la compétition. Et voilà, donc la passion a commencé par l'envie de gagner. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire les championnats du monde en optimiste, en Argentine, à faire le championnat d'Europe au Pays de Galles. Enfin, j'ai commencé à pas mal voyager avec les courses et j'ai adoré ça, partir loin, vivre de vraies petites aventures. Et plus ça va, en fait, plus j'aime la voile et plus ça devient maintenant, c'est une réelle passion depuis quelques années, mais ça met du temps et c'est assez progressif.
Et tu disais que tu as commencé par du 420 à très haut niveau. Le 420, c'est quoi? C'est quoi? C'est un cours de 420 l'été qui te fait dire pourquoi pas? Comment ça se passe?
J'ai commencé en optimiste par les stages d'été à vraiment toute petite, à 5 ans. Et après, je me suis inscrite en club vers l'âge de 7 ans. Et après, en fait, ça déroule. J'ai fait toutes les années en optimiste, 8 ans, ça fait quand même beaucoup, sur une toute petite barque qui ne fait pas plus de 2 mètres. Et en fait, après, le cursus habituel, c'est soit on passe en laser, soit on passe en 420. Et 420, c'est un petit bateau où on est à deux dessus. Moi, j'ai décidé de partir en double pour tester le double. Et là, je suis entrée vraiment en pôle jeune, donc c'était vraiment, ça commençait à être du haut niveau, quoi.
Et alors, comment tu choisis ton partenaire, du coup, pour être à deux? Comment tu fais pour choisir quelqu'un avec qui tu sais que tu vas encore passer quelques temps?
En fait, on ne choisit pas tellement. Ça s'est fait par hasard avec Camille Orion, donc c'est une fille que je ne connaissais pas du tout avant de m'engager avec elle. Et en fait, on s'est dit, bon, on s'est croisés une ou deux fois en optimiste, on ne se connaissait pas du tout. Et puis, on s'est dit, bah, tiens, notre coach nous a mis ensemble pour le 420. Et en fait, on a fait 3 ans toutes les deux où on s'est engagés pendant 3 ans à faire le lycée en sport-études et en parallèle le pôle. Et ça s'est plutôt bien passé puisqu'on était en symbiose, quoi, sur le bateau, ça marchait super bien.
Et quand tu dis tu fais sport-études, vous dégagez combien de temps par semaine du coup pour faire de la voile?
Donc on était au lycée et à côté on avait donc le mercredi et le vendredi après-midi de libre. Donc on s'entraînait 3 fois par semaine, mercredi, vendredi et samedi. Et on avait 2 prépas par semaine, donc de la prépa physique où on va à la salle, le mardi on allait courir, le jeudi entre midi et 2 on avait 1 heure pour aller à la salle, et voilà. Et puis après à côté de ça, il y a toutes les courses.
Oui, bien sûr, c'est ça que j'allais dire. Du coup, toutes les courses, comment ça se passe du coup, une course, tu la prépares combien de temps à l'avance? Ça dure combien de temps?
Une course, ça dure... souvent, c'était des championnats qui duraient sur 4 jours. Donc, on arrive une semaine avant. On navigue beaucoup une semaine avant. On fait un stage souvent pour repérer le lieu où on navigue, pour repérer les effets de site du vent, enfin... le vent, comment il entre sur la baie par exemple, ou les choses comme ça. Et puis après on partait sur la course. On avait 4 jours où tous les jours on faisait 3 manches, donc 3 petits parcours en régate, voilà.
Et donc quand vous êtes deux sur le bateau typiquement, est-ce que vous tournez à chaque fois qui fait quoi sur le bateau, ou est-ce que vous êtes formé pour faire toujours le même poste?
On est formé pour avoir toujours le même poste. Moi j'étais la barreuse. Donc j'étais à l'arrière et je dirigeais le bateau, et j'avais la GV, on appelle, c'est la grande voile, et elle était à l'avant, et Camille s'y gérait le spi, donc elle c'était l'équipière. Et elle était au trapèze, comme on peut voir souvent, c'est où on se penche à l'extérieur du bateau, debout sur le bateau. Voilà.
Et c'est canon ça. Et t'as participé du coup, tu m'as dit, à différents championnats, qu'est-ce que ça a donné?
Ça a été 3 années où, en fait, tous les ans, on est allé au Youth World Sailing Championship. C'est le championnat du monde jeune, c'est sur les séries pré-olympiques. Du coup, en fait, c'est à chaque fois des véritables petits JO pour les jeunes. Et en fait, on était une équipe française, mais dans chaque catégorie de voile, il y avait un représentant de la France. Et du coup, on a eu la chance d'aller représenter la France 3 fois. Et à chaque fois, on a gagné une médaille. Donc, c'était génial. Et puis, à chaque fois, l'autre bout du monde, on a fait Nouvelle-Zélande, Chine et Texas.
Ah, canon, ça.
Mmh. Ouais,
c'était... Tu m'as dit Texas, vous naviguez du coup sur la côte sud-est?
Ouais, c'est ça, ouais. Et il faisait très chaud.
Bon, du coup, le 420, ça dure 3 ans, tu m'as dit, jusqu'à la fin de ton lycée, c'est ça?
Ouais, jusqu'à la fin du lycée. Et en fait, c'était prévu, on s'était dit, on fait 3 années de lycée, et puis après, on verra. Et en fait, elle avait décidé de faire des études et du coup d'arrêter la voile. Et du coup, moi, j'avais envie de faire les deux à la fois, les études et la voile. Et là, c'était le choix, est-ce que je continue dans les séries olympiques? Donc, généralement, après le 420, on fait du 4-7, c'est un bateau exactement presque pareil, mais en plus grand. Et moi, en fait, j'ai choisi de partir vers la course au large, une voie totalement éloignée, quoi.
Et alors, attends, parce que du coup, on oublie quand même un point important. Moi, j'ai entendu parler de certains défis un peu originaux qui se sont passés pendant ces 3 années. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, notamment sur tes... J'ai entendu parler d'une traversée de la Manche que tu as faite.
Ouais. En fait, à la fin de mon optimiste, de mes 8 années en optimiste, j'avais envie de finir en beauté, et j'avais envie de faire un petit défi assez original, qui était de traverser la Manche en optimiste. Ça avait été fait, je crois, une fois, mais il y a très très longtemps, entre Calais et l'Angleterre. Et en fait, voilà, on s'est dit, oh, tiens, on tente ce projet. Et on s'est dit ça avec ma famille. Enfin, ils m'ont soutenue dans la construction du projet. Et en fait, ça a été génial. C'était une aventure qu'on a préparée sur une année. Et puis un jour, je suis partie avec mon optimiste de l'île de Wight jusqu'à Cherbourg. Et j'ai navigué pendant 15 heures sur l'optimiste. J'ai traversé les cargos, j'ai traversé des conditions où il y avait pas mal d'air. Enfin, c'était assez incroyable et en même temps magique parce que je suis partie à 3 heures du matin. Je suis arrivée le soir à 19 heures. C'était vraiment... J'ai vu la nuit, j'ai vu le lever du soleil, tout ça. Et je pense que ça a vraiment posé une graine dans l'envie de faire de la course au large.
C'est impressionnant. Comment ça se passe quand tu es à 3h30 du matin, tu viens de partir, tu as la côte derrière toi qui est encore illuminée et tu vois devant rien. Et il fait a priori, je suppose, très noir.
Ouais, moi, je pense que le pire, c'était avant de partir. Avant de partir, quand je me suis réveillée et je me suis dit, ça y est, ça fait un an que je prépare ce projet, là, il faut y aller. Là, j'ai eu la grosse boule de stress qui a commencé à monter une petite angoisse quand même. Et puis finalement, une fois sur l'eau, j'avais juste envie de foncer et d'aller jusqu'au bout. Et je me souviens que je me souviendrai toujours de l'image de la lune devant moi. Je me repérais avec le petit nuage. J'avais pas d'électronique à bord, j'avais rien. Donc c'était vraiment... on m'avait juste pris un petit compas et je regardais. Et voilà, j'ai fait ma route en fait. Et quand j'étais sur l'eau à 3h30 du matin, c'était juste magique, quoi. J'étais dans le moment présent.
Impressionnant. Et donc, ça veut dire que cette traversée-là, tu me dis qu'elle a été faite une fois avant, donc tu es la deuxième à la faire, du coup ?
Ouais, mais alors, du coup, j'étais... je suis la deuxième, mais la première à l'avoir faite à cet endroit-là. Donc, entre l'île de Wight et Cherbourg, ça représente 75 000 de navigation en optimiste. Et du coup, c'était vraiment un tout autre défi parce que ça fait trois fois la distance entre Calais et l'Angleterre. Et du coup, c'était la première fois quand même qu'une fille traversait la Manche en optimiste. Et voilà, c'était un sacré défi, ouais.
Pas eu des coups de flip en vous voyant passer des cargos avec les vagues que ça génère sur une petite barque de 2 mètres ?
Finalement, non, j'ai pas eu de coups de flip. Les cargos, en fait, ça m'a rassurée quand j'ai vu le premier cargo parce que ça voulait dire que j'entrais dans le rail de cargo. Donc il y a tout un système de trafic, ils appellent ça le rail, où chaque cargo est à la file indienne. Et du coup, ça m'a rassurée parce que je pouvais me dire, là, j'ai déjà fait une bonne partie de la traversée. Et ça me donnait un repère en fait, et puis en fait ça s'est très bien passé, on passait derrière. Non, là par contre où j'ai eu un coup de flip, c'est au milieu de la traversée de la Manche où il y a eu beaucoup de vagues et j'ai rempli deux fois mon bateau et l'optimiste en fait, ça se remplit vraiment à ras bord et on doit se lever et écoper avec les deux mains, avec deux écopes je me suis dit ça va être long quoi, si ça m'arrive tout le temps. Finalement, ça m'est arrivé que deux fois et ça l'a fait pour la suite.
Il n'y a pas de risque qui coule, l'optimiste ?
Non, il n'y a pas de risque qui coule, mais c'est très fatigant quand on remplit en entier un optimiste. C'est vraiment, on doit tout vider avec deux petites écopes qui font quoi, 4 litres. Et du coup, ouais, c'est un peu, ça aurait été très long, quoi. On peut dessaler avec un optimiste.
Oui, ça, je m'en souviens. Ça t'est arrivé d'ailleurs pendant la traversée ?
Non, ça ne m'est pas arrivé. Non. J'ai enfourné, on appelle ça. C'est vraiment le bateau qui plante en avant.
Dans la vague. Tu t'en tires quoi comme conclusion du coup sur ça, des apprentissages de toi ? C'est quoi le...
Je pense que c'est... c'est que j'ai eu une idée comme ça un jour, je me suis dit, oh, tiens, ici, je traversais la Manche en optimiste, ça serait hyper drôle. Et en fait, je l'ai concrétisé et ça, c'était génial, quoi. C'était de pouvoir se dire, tiens, on a une idée et on l'a fait, quoi. Et moi, C'est vraiment ça, c'est réaliser ses rêves, quoi, réaliser ses envies, et faire des petits défis comme ça, j'ai adoré. Et puis, ça m'a donné l'envie de faire un autre défi, parce que tout de suite après, l'année d'après, j'ai organisé un deuxième défi, qui était la traversée du détroit de Gibraltar, en optimiste encore. Et donc là, okay. C'était encore un autre défi. Ouais.
Et en distance, du coup, c'est équivalent. C'est quoi la... Je vois pas.
Du coup, le détroit de Gibraltar, c'était vachement plus court. En fait, c'était 5 heures de navigation. Et ce défi-là, il a été mais super compliqué à organiser pour la logistique. Enfin, aller louer un bateau pour faire ça, aller trouver... Enfin, même le trafic était très dangereux là-bas parce que là-bas, c'est pas du tout organisé en rail, c'est dans tous les sens. Du coup, et puis la météo aussi, elle est vraiment très compliquée là-bas. Mais donc voilà, ça a été très compliqué à organiser, mais au final, la navigation était super facile. Enfin, j'ai pas ressenti de difficultés, je me suis pas dépassée. Enfin, en fait, j'étais très déçue. Avant d'arriver à la fin du défi, je me souviens que j'ai pleuré sur mon bateau. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Parce que j'avais le sentiment de faire un faux défi, quoi, de l'avoir un peu raté, dans le sens où c'était pas très dur, c'était pas dingue, quoi. Quand je suis arrivée le soir, donc ça, c'était en parallèle de mes années 420, et c'était ma dernière année 420, cette année-là, et il fallait que je commence à prendre le choix pour l'avenir. Est-ce que je pars sur la série pré-olympique, olympique, je veux dire, soit pour la mini transat. Et ce soir-là, je me souviens que le soir de la traversée de Gibraltar, j'ai pris la décision, quoi. Je me suis dit, en fait, c'est les défis, c'est l'aventure, c'est m'éloigner loin de la terre que j'ai envie de découvrir, et j'ai envie de faire ça, quoi. Voilà. Du coup, le soir, j'ai dit à mes parents, voilà, j'aimerais trop faire la mini transat l'an prochain.
Canon. Canon. Et donc, Mini Transat, tu commences à la préparer dès la dernière année du 420, c'est ça que tu dis?
Ouais, je commençais à bien y réfléchir. On commençait à voir comment on fait pour louer un bateau, ou peut-être l'acheter. Enfin, on commençait à réfléchir. Après, du coup, le 420 s'est terminé. Et dans la foulée, j'ai commencé en mini. Et là, je partais pour faire la Mini Transat en 2021. Et en fait, à la fin de l'année 2018, donc j'avais déjà commencé à m'entraîner un peu avec le mini, tout ça. Et en fait, la mini transat, c'est tous les deux ans. Et donc, il y avait l'édition 2019 et 2021. Et du coup, je me suis dit, oh, je peux pas voir les copains partir sans moi. Je veux y aller avec eux, et je vais tout donner pour faire 2019 parce que j'aime bien être un peu à fond tout le temps. Et du coup, j'ai tout donné. Là, c'était vraiment une année un peu spéciale, quoi, parce que je me suis pas arrêtée, j'ai fait que de naviguer. Et je suis partie. En fait, il y a tout un circuit de qualification pour faire cette course, la traversée de l'Atlantique, la Mini Transat. Et c'est un vrai challenge, quoi. Il faut faire 1500 milles en course, 1000 milles en solitaire, où on part tout seul, un grand parcours de 8 jours. Et tout ça, je l'ai fait du coup en une année, alors que normalement les gens prennent un peu le temps, 2 ans au minimum. Et en fait, du coup, j'ai été prise dans les derniers pour être qualifiée, et j'étais sur la liste d'attente encore une semaine, peut-être 2-3 semaines avant le départ, j'étais en liste d'attente, et je savais toujours pas si je partais pour la mini transat. Donc ça a été vraiment une préparation assez assez rude, mais c'était génial, j'adorais naviguer tout le temps.
C'est canon. Et alors, ça donne quoi le départ de la mini en termes de stress? Tu parlais effectivement le matin du lever de la traversée de la Manche. Tu vois, si on fait un petit comparatif, c'est plus, c'est moins, c'est différent?
Je dirais que c'est moins, parce qu'en fait, comme on la prépare depuis... Bah, en fait, on fait tous les départs de course avant, donc je savais déjà à quoi m'attendre, comment allait être ce départ de cette mini transat. Et puis je m'étais vraiment préparée mentalement. Je pense que les phases de stress, elles venaient sur la préparation. Par exemple, 2 semaines avant, où là, j'avais une bri- école à faire et j'y arrivais pas, ou je me mettais un peu à stresser. Mais je me souviens que sur cette mini, je suis partie vraiment détendue quand même et trop heureuse, quoi. Trop hâte de découvrir ce que ça allait être, cette traversée. Et ouais, trop heureuse de partir.
Et tu termines du coup cette mini transat avec, comment dire, toujours cette motivation de dire c'est ça que je veux faire après, ou t'en as pas eu marre, si tu veux, en te disant voilà, alors j'ai traversé encore plus grand que la Manche, j'ai carrément fait l'Atlantique, et là au contraire c'est une découverte pour dire je continue encore plus dans ce sens-là, quoi.
Ouais, alors la mini transat, du coup c'est deux étapes, et c'est vrai que mes deux étapes ont été super différentes. Ma première étape, j'ai eu au bout du troisième jour, j'avais plus de batterie. Et là, je me suis retrouvée un peu en mode, il faut tenir la barre puisqu'on n'a plus de pilote automatique. Et pendant 3 jours, je ne dormais plus, j'étais à la barre. Et c'est vrai que ça a été vraiment une épreuve de vie, ça. Et pendant 3 jours, j'ai pas dormi. Au bout du troisième jour, j'ai commencé à halluciner. Ça m'était jamais arrivé, quoi. Et c'est allé assez loin. Du coup, c'était une vraie épreuve. Donc je suis arrivée après 9 jours sur la première étape, je suis arrivée épuisée comme je n'ai jamais été, et après j'ai eu le temps de me requinquer, de partir pour la deuxième, et la deuxième ça a été vraiment un rebond où j'ai pu reprofiter, vivre bien à bord et arriver en Martinique sous le soleil. Enfin, j'étais trop heureuse d'avoir fait ça, j'étais trop fière d'avoir réussi. Et donc, ça m'a marqué dans le sens où c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie, quoi. C'est la mini transat, c'est vraiment une aventure incroyable, ouais. Ça me donne envie de continuer, ouais.
Voilà, c'est ça. Du coup, tu finis ça avec l'envie de pouvoir.
Ouais, c'est cette année de mini à me préparer, à gérer tout mon projet dans sa globalité, et puis qui se termine par cette aventure, la mini transat, c'est vraiment, pour moi, c'est devenu, la voile est devenue quelque chose de très très important dans ma vie, et c'est devenu une passion, quoi. Je pense qu'à cette période-là, j'ai vraiment compris que je voulais faire de la voile dans ma vie. Et du coup, c'est pour ça que je continue aujourd'hui.
Tu parlais tout à l'heure de ta coéquipière qui avait fait le choix de uniquement faire les études, et tu voulais combiner études plus voile. Mmh. Aujourd'hui, tu as mis études de côté et tu fais que voile.
Non, je garde toujours les études quand même en secours. je fais une école d'ingénieur qui s'appelle l'INSA de Rennes. Et donc, c'est une école à l'INSA où ils mettent beaucoup en avant les sportifs et ils les aident beaucoup dans leurs projets. Et donc, il y a toute une section pour les sportifs de haut niveau. Et en fait, ils me permettent de partir. Là, pour la mini transat, je suis partie pendant un semestre entier. Et j'ai pu après rattraper les partiels en décalé. Enfin, voilà, c'est assez spécial. Il faut arriver à suivre et il ne faut pas lâcher, quoi, les cours. Mais ça se passe bien.
Tu fais la transat, du coup, en 2019, tu m'as dit. Ça se termine à la fin de l'année, on n'avait pas encore notion du Covid à ce moment-là, en tout cas. Et là, tu m'as parlé au début de la Figaro. Ça se passe comment, la transition? Comment tu arrives à cette décision?
Ouais. En fait, après la mini transat, j'avais pas trop envie d'en refaire une, parce que j'avais envie de grandir et de progresser un peu, partir sur des bateaux plus gros. Et j'ai fait une sélection qui s'appelle la sélection CMB. Donc, c'était une sélection en Bretagne où en fait, et on était 30 filles à se battre pour avoir une place dans la team CMB. C'est une sorte de... En fait, on avait un bateau à gagner, un bateau, un projet clé en main, tout ça. Et donc, j'ai fait cette sélection. J'ai fait... je suis entrée dans les 9, puis la finale, et donc une finale où on était à 3, on se battait sur l'eau, on a fait plein de une régate en fait pour gagner, et je termine deuxième. Du coup, j'étais pas loin, et en fait, cette sélection, ça m'a fait découvrir le bateau, le Figaro, et puis après ça m'a donné envie de monter mon projet personnel en dehors d'une écurie, de voilà de de trouver un bateau et d'aller trouver les sponsors qu'il faut et pour faire cette course, la solitaire. Donc voilà,
c'était vraiment qu'une seule place. Donc sur 30, il n'y avait forcément qu'une seule.
Ouais, il n'y a qu'un seul bateau en fait. Il n'y avait qu'un seul bateau qui était à gagner, quoi. Et c'était un seul projet. Et puis en fait, le Figaro à côté de ça, bon, il n'y a pas. Enfin, ça m'a donné envie de faire du Figaro, mais il y a aussi que c'est une catégorie où il y a énormément de concurrents. Et il y a beaucoup de vainqueurs. Il y a des vainqueurs du Vendée Globe, de la solitaire. Enfin, c'est vraiment un milieu. C'est comme. Si on peut comparer à des études, c'est comme la prépa pour entrer dans une école, quoi. C'est l'endroit où on s'entraîne, où on progresse énormément.
Et donc la Figaro, elle a lieu quand, tu dis ?
Donc la Figaro, la solitaire du Figaro, elle a lieu dans 5 jours. Donc c'est le 30 août 2020. Et elle a lieu toujours en fin août ou septembre. Et donc c'est une course qui dure sur 20 jours. Et quatre étapes où chacune a une taille différente, mais ça va de 2 jours à 5 jours de navigation en mer. Et on enchaîne en fait, on enchaîne les étapes, on rentre à terre, on range le bateau, on dort un peu et on repart. Et du coup, c'est assez, le rythme est assez rude, je pense. Je sais pas encore, mais je pense que ça doit être rude.
Et on est sur des boucles, on est sur un itinéraire, comment ça se passe ?
On est sur des boucles autour de la Bretagne. Du coup, là, je suis à Saint-Quay pour préparer du coup la course qui part dimanche. Et là, on part donc à Saint-Quay-Portrieux jusqu'à... On va faire le tour du Fastnet en Irlande. Ensuite, on a une autre où on va aux îles Scilly. La troisième étape se passe à Dunkerque. Et puis après, on fait Dunkerque jusqu'à Saint-Nazaire. Et on fait une quatrième étape à Saint-Nazaire. Voilà.
Eh bien. Et donc, tu disais que tu as fait ton propre bateau, tes propres sponsors. Donc, tu t'es débatouillé finalement toute seule pour arriver à avoir tout cet aspect de... Enfin, tout le bateau prêt finalement pour ça.
Ouais. En fait, ça a été assez compliqué cette année puisque... Déjà, l'an dernier, en mini, j'ai un peu couru après les sponsors. C'est dur à construire, se construire un vrai réseau comme ça. C'est vraiment compliqué. C'est une vraie partie dans la voile. C'est une course à terre, quoi. Et donc, ça a été déjà dur en mini. Et là, cette année, c'est un budget qui est double, voire triple. Et du coup, c'est encore plus important. Et l'an dernier, si j'ai eu un peu d'aide de mes parents, cette année, c'est plus possible, quoi. C'est vraiment... trop important pour qu'ils puissent m'aider. Donc là, j'ai cherché, j'ai fait plein de choses. Pendant tout le confinement, en fait, j'étais entre mes partiels pour mes études et vraiment la recherche de partenaires. Et j'ai passé 2 mois à faire que ça. Et ça s'est débloqué il n'y a pas très longtemps, finalement. Donc c'est un peu un pari, quoi, de trouver des partenaires. On s'engage, on prend un bateau pour que le projet soit crédible. Et puis après, on cherche des partenaires. Donc c'est un vrai pari. Ça fait parfois passer des nuits blanches, mais une fois qu'on y arrive et qu'on se retrouve sur le départ, bah, on est trop heureux et on se rend compte de la vraie valeur de nos bateaux, quoi.
Ouais, ça, je veux bien te croire.
Tiens, bah, du coup, en fait, cette année, pour la première fois, je vais concourir en soutenant une fondation. Et pour moi, c'est un réel objectif. En fait, je soutiens la fondation Apprenti d'Auteuil. C'est une fondation qui existe depuis 150 ans peut-être et qui soutient tous les jeunes qui sont en difficulté, qui ont du mal à s'insérer dans la vie. Et donc voilà, je suis trop fière de pouvoir soutenir cette fondation. Et en fait, ça donne vraiment du sens à mon projet cette année. Ça donne du sens au projet pour les partenaires parce qu'ils soutiennent plus qu'un projet seulement sportif, mais aussi un projet qui a une cause sociétale. Ça a aussi du sens pour la fondation parce que du coup je vais lui donner de la visibilité. Mon bateau est décoré au nom de la fondation. Et puis pour les jeunes, je suis trop contente de pouvoir partager l'aventure avec eux, peut-être leur transmettre la passion de la mer et voilà leur donner envie de se dépasser, leur donner envie de d'avoir une passion, d'avoir des objectifs dans la vie. J'ai trop envie, voilà. Enfin, je suis super honorée de pouvoir soutenir cette fondation. Et c'est un vrai objectif pour moi cette année de pouvoir arriver à partager l'aventure avec eux.
Et c'est un one shot ou tu fais ça sur plusieurs années? Comment ça se passe? C'est un partenariat?
Donc en fait c'est pas un partenariat dans le sens où ils me donnent pas d'argent, et c'est l'objectif, c'est plutôt que moi que j'arrive à gagner des sous pour eux et avec les dons du public. Et en fait l'objectif c'est, on fait un peu une année test, voir si ça marche, mais l'objectif c'est vraiment de me construire avec eux, de construire un vrai réseau de partenaires autour de nous, et d'un jour arriver sur le Vendée Globe avec la fondation Apprenti d'Auteuil dans les voiles, quoi.
J'ai vu passer aussi une histoire de collaboration avec la marque qui est assez connue, la 1727 Sales Bag. On peut en parler un peu rapidement? En quoi ça consistait?
C'était l'an dernier, donc j'ai fait une collaboration où j'ai aidé à designer une série de sacs, donc on en a fait 4. Et voilà, sur un modèle que j'aimais bien, un peu étudiant. Et du coup, on a vendu ces sacs sur le site Ecosy. Et en fait, c'était une campagne de crowdfunding où c'était la contribution. Et du coup, en fait, il y avait une partie qui était reversée à mon projet. Et c'était génial, ça, de pouvoir faire ça avec la marque 1727. Enfin, c'est une marque que j'ai toujours regardée et que j'adore, quoi. Les sacs sont super beaux. Donc, j'étais super contente de faire ça. Et puis, cette année, on n'a pas eu le temps de le refaire, mais on va le refaire pour la suite.
Canon. Canon, canon. Bon, et du coup, tu finis à Figaro. Qu'est-ce qui se passe derrière?
Je pense que je vais retourner en Figaro l'an prochain. Je suis en train d'y réfléchir un peu en ce moment. Et j'ai envie de faire 2-3 années en Figaro pour pouvoir vraiment apprendre au maximum. Et mon objectif, c'est de un jour atteindre un de mes 3 rêves qui sont soit le Vendée Globe, soit les Jeux Olympiques en course au large mix. C'est une toute nouvelle série qui vient d'entrer au JO et ça, du coup, c'est devenu un nouvel objectif. Faire la Volvo Ocean Race.
Donc le Vendée Globe qui se fait tout seul. Les JO, c'est en mixte, donc c'est en double.
Ouais, c'est en double. Ouais. C'est en double et j'aimerais peut-être le faire avec mon frère.
D'accord.
Voilà.
Du coup, la Volvo en équipage, t'as un équipage en particulier en tête?
Ah non, ça c'est... c'est des grands équipages où ils sont, je sais plus combien, mais peut-être 8, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est un peu le sponsor qui décide, je pense.
Il y a un ordre particulier dans ces 3 défis ou pas?
Je pense que l'ordre, il se fera petit à petit. J'espère peut-être un jour en faire le maximum, peut-être 2 de ses rêves, ou je sais pas, mais ça se fera petit à petit en fonction des opportunités que j'ai. Le Vendée Globe, c'est vraiment un objectif. Ouais. Je pense il n'y a pas trop d'ordre, ça se fera naturellement et ça se fera en fonction un peu des opportunités que je vais pouvoir saisir. J'espère quand même essayer d'en faire un des 3, voire 2 sur 3. Enfin, voilà, je verrai.
Oh bah c'est top tout ça. Tu as un coach qui t'aide là sur la partie voile? Tu fais partie d'un club? Tu as une personne en particulier qui t'accompagne? Comment ça se passe?
En fait, petit à petit, il y a toute une équipe qui se forme autour du projet. Moi, je m'entraîne au pôle de Port-la-Forêt en Bretagne, Finistère. Et du coup, il y a les coachs, les entraîneurs du pôle qui sont toujours là. Mais puis après, plus particulièrement autour de mon projet, j'ai... Par exemple, une préparatrice mentale. Donc, c'est une sophrologue avec qui je travaille depuis que j'ai peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Donc, elle me suit tout le temps, elle vient sur les départs. Et puis après, il y a les partenaires que je commence à fidéliser de plus en plus. Et il y a mon partenaire principal, Aérocampus, qui me suit depuis que j'ai fait la traversée de la Manche. Donc, pareil, ça, ils se sont engagés pour longtemps et ça fait plaisir, quoi, de toujours les retrouver, quoi.
Et tu... Enfin, ça va ressembler à quoi, du coup, une semaine type, là, typiquement? Tu fais quoi le jeudi dans une semaine type?
Ah, bon, en fait, il n'y a pas de semaine type. C'est tout le temps, c'est très peu de routine, en fait, puisque c'est une semaine, je vais faire de la voile, que de la voile. Et on va faire un stage au pôle où on a lundi une formation, après on navigue pendant 3 jours, 3-4 jours. Après, il y a une prépa physique. Enfin voilà, ça change à chaque fois en fonction de la météo. Et puis après, il y a une semaine où je vais être en cours et je vais réviser parce qu'il y a les partiels qui arrivent vite, vite, vite. Et là, je vais m'enfermer et plus trop vivre pendant une semaine. Enfin, ça change tout le temps. Et puis après, il y a les semaines où je suis en régate. Et donc là, il faut compter une semaine de préparation avant où bah, là, on bricole sur le bateau, on fait les rendez-vous, les interviews, les partenaires, tout ça. Et après, la semaine de régate. Enfin voilà, en fait, ça change tout le temps, tout le temps. Et j'aime bien. J'aime bien ne pas avoir trop de routine.
Et typiquement, toi qui es vraiment fan de la voile, il y a bien des trucs dans la semaine qui t'embêtent. Si tu devais te débarrasser de quelque chose, t'enlèverais quoi?
Le bricolage, je pense. J'enlèverais le bricolage. J'aime pas trop ça. Enfin, je suis pas très bricoleuse. Ou les petits soucis de bricolage, quoi. Après, je pense les cours, c'est pas forcément, enfin, c'est pas ma passion, quoi. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir retrouver des jeunes de mon âge et avoir une vie un peu plus de mon âge, quoi.
Et ils en pensent quoi, d'ailleurs, tes amis, typiquement de ton âge, que tu fasses ce genre de vie, ils en pensent quoi?
Ça dépend, chacun a une réaction un peu différente. Mais la plupart ils trouvent ça cool, ils sont parfois un peu impressionnés. Et je fais mes études du coup dans la section sportive, et en fait on est toute une bande de sportifs, et c'est génial. Il y a un gymnaste, un cycliste, il y a tout, et du coup on a déjà des projets chacun. Et du coup, on se supporte tous. Là, ça me fait trop plaisir parce qu'ils vont venir pour le départ de la solitaire, venir me voir. Donc voilà, c'est hyper encourageant et ça fait trop plaisir de voir qu'ils sont aussi un petit peu intéressés par ce que je fais à côté.
Carrément. T'as des gens, toi, d'ailleurs, à titre personnel, que tu vas admirer en particulier, qui vont t'inspirer?
Oh, voilà, il y en a plein. Il y a Samantha Davis, c'est quand même un modèle. Hélène MacArthur, dans les garçons, il y a François Gabart, Jean-Pierre Dick, ou même Mike Horn qui fait pas que de la voile, mais c'est des exemples, tout cela. Ouais.
Et le en dehors de la voile, tu as des petits défis secrets que tu fais? Tu as des activités ou des passions qui sont inconnues au bataillon?
J'aime bien le surf, le paddle surf. J'en fais quand j'ai le temps, donc souvent c'est en vacances. J'adore aussi l'escalade. J'en ai fait pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai adoré parce que ça ressemble un petit peu à la mer, où il faut un peu se dépasser, il faut se mettre un peu dans le dur pour y arriver. Et puis sinon, j'ai découvert très récemment le wing foil. C'est un truc qui est un peu à la mode en ce moment. C'est en fait, on se retrouve avec une aile sur une planche à foil. Et j'ai essayé, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 3 fois, mais je suis adorée. Et je me suis dit que ça, il faut vraiment que je continue à en faire et que j'apprenne.
Canon, ça. Effectivement, c'est un peu la tendance, j'en ai encore vu pas mal, ouais. Récemment, c'est vrai que c'est surprenant parce que c'est un mélange du coup entre du kite et de la planche à voile.
Ouais, c'est ça.
Ça devient...
Ah mais c'est trop bien, c'est à essayer, franchement, c'est génial.
Tu disais à l'instant que tu parlais de dépassement de toi. Est-ce que ce serait pas devenu ta petite drogue du coup du quotidien?
Bah si, je pense. Je dois être un peu... petit à petit, ça va devenir vraiment mon caractère. Mais voilà, je suis déterminée et j'aime trop vivre un truc un peu... Bah, une aventure, parfois, enfin que ce soit un peu dur. Et puis me dire à la fin, ça y est, je l'ai fait, quoi. Et Ouais, c'est, je pense que si, ça devient une petite drogue. Enfin, c'est, puis c'est la drogue du large au final, parce que on est beaucoup à dire qu'au final, sur l'eau, bah, c'est dur, on galère, il fait froid, enfin, c'est pas du tout agréable, et au final, quand on rentre à terre, on a envie d'y retourner. Ouais, c'est un peu particulier.
Tu comptes t'arrêter un jour, Violette ?
Ouais, peut-être à un moment donné, je ferai peut-être une pause pour avoir une famille, des choses comme ça. Et puis après, je reprendrai en mode tour du monde avec ma famille. Ça, c'est ma vie rêvée, peut-être. Mais non, en fait, je sais pas trop, mais on verra, quoi. Je sais pas.
J'ai trois petites questions pour toi là avant qu'on se quitte. La première, c'est si tu devais conseiller à quelqu'un, un petit jeune ou une petite jeune en l'occurrence, de se lancer dans des défis comme t'as fait toi, il faut commencer par quoi ?
Bah, je pense qu'il faut commencer par bah déjà, enfin, faut y avoir pas mal réfléchi. Je pense qu'il faut se poser et se dire, bon, j'ai ce rêve là, comment je vais faire pour le réaliser? Enfin, moi, en fait, quand il y a quelque chose qui me paraît insurmontable, je me pose, j'écris, je me dis, bon, d'abord je vais commencer par ça, ensuite je vais par exemple monter un dossier, ensuite je vais aller rencontrer telle et telle personne. Faut pas hésiter à aller demander aux gens de l'aide, demander comment ils font, tout ça. Et moi, ça m'a vraiment appris ça, monter un projet, c'est aller voir les gens, et notamment les partenaires, oser se présenter, oser présenter son projet, dire que j'ai envie de le faire, quoi. Et ouais, je pense que c'est une chose hyper importante. Et puis après, il faut être motivé. Même si c'est dur, il faut continuer, quoi. Il faut y aller.
Il faut tenir. Comment on fait pour te suivre, Violette, du coup ? C'est quoi ? T'as des réseaux sociaux, des bouquins, des sites internet ? Comment ça se passe ?
Bah, sur tous les réseaux sociaux, je suis un peu présente partout, sur Instagram, Facebook, même LinkedIn. Je suis vraiment partout, Twitter et YouTube aussi. Donc j'ai une petite page où j'ai fait les films de la Mini Transat. J'en ai fait deux petits qui ne durent pas très longtemps, mais qui racontent bien tout, comment ça s'est passé. Et puis après, juste sur Internet, j'ai un site, Violette d'Orange. Enfin voilà, en tapant Violette d'Orange, on peut me trouver un peu partout. Non.
Parfait. Dernière question, Violette. Si jamais on avait la technologie et qu'on pouvait te renvoyer dans le temps, et que tu t'adressais du coup à la Violette qui se couche la veille de son départ de la traversée de la Manche, tu vois, qu'est-ce que tu lui dis ?
Ah, c'est dur comme question. Je sais pas. Je pense que je lui dirais rien, parce que c'est ce qui est génial, c'est que je savais pas du tout ça allait mener ce projet-là, et même au début, je me disais, bon, c'est un petit défi, je vais le faire et puis c'est tout. Il va rien se passer. Mais en fait, ça fait un. C'est ça qui petit à petit m'a mené jusqu'à aujourd'hui. Donc oh bah, je lui dirais rien, je lui dirais continue, crois en ton truc, et puis tu verras bien, ça va prendre un peu plus d'ampleur un peu plus tard, quoi. Et puis ouais, faut garder la surprise. Non, c'était génial.
Faut garder la surprise. Carrément. Merci Violette pour ce temps et ce partage, c'était vraiment génial de faire connaissance. Et donc, on te souhaite bon courage pour la course. Pour ceux qui nous écoutent, on est en août 2020 et donc tu pars dans 5 jours pour la Figaro. Mmh. Et donc, on te souhaite bon vent.
Ouais, bah merci, c'est gentil. Merci de m'avoir invité. Puis voilà, j'espère que ça va tout bien se passer. Et puis, peut-être à bientôt.
Carrément, avec grand plaisir. Salut Violette.
Salut.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.